Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs. Aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu fourre-tout. En cette fin d'année, Noël approchant, je me suis dit pourquoi pas vous donner des idées de cadeaux à faire à des amateurs de SF ou à vous-même. Charité bien ordonnée, tout ça, tout ça. Je vais aussi vous parler d'œuvres de SF qui ne justifient pas forcément d'une émission complète, mais qui, à mon avis, méritent le coup d'œil. Je vous préviens, ça risque de devenir un peu en vrac, je cite tout ça comme ça vient. Bon, c'est faux, je suis en train d'écrire ce texte et je viens de me rendre compte que j'ai oublié le X à faux. On va commencer par une collection de bandes dessinées, Jour J, aux éditions Delcourt. Le fil rouge de la collection tient en un mot, Uchronie. Alors c'est quoi une Uchronie ? Définition du dictionnaire Le Robert, récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ historique. Merci Robert, c'est un poil flou. Une uchronie, c'est un présent modifié à partir d'un événement passé. Ouais, pas forcément plus clair. Bon, l'idée de l'uchronie, c'est de se demander que se serait-il passé si... Si Hitler n'avait pas accédé au pouvoir, si JFK n'était pas mort en 1963... C'est modifier la trame historique telle qu'on la connaît et se demander comment elle aurait divergé. C'est un exercice de réflexion. On pourrait presque parler de paluchage intellectuel. Mais en tout cas, une libre interprétation de ce qui aurait pu se passer, car, par définition, ça ne s'est pas passé. Ou alors, une évocation d'univers parallèle. Bref. Ce que j'apprécie particulièrement dans cette collection, c'est le déroulement de l'histoire sur deux niveaux. Il y a l'histoire avec un grand H, et l'histoire d'un personnage réel qui est passé à la postérité. Cette narration à deux niveaux est le plus souvent bien décrite. En tant qu'amateur d'histoire contemporaine, je reconnais facilement des personnages du XXe siècle. Pour ce qui est des périodes plus lointaines, c'est moins évident, mais une culture générale basique permet de bien s'y retrouver. Les tomes ne sont pas tous à suivre. Des fois, une histoire se déroule sur deux ou trois albums. Donc, pas obligé de tous les lire pour pouvoir suivre l'intérieur. Pour les amateurs du genre ou les rats de bibliothèque, la collection commence à être copieuse. C'est rien de le dire. 47 albums au moment où j'écris ces lignes. Et je les écris vraiment. Ça aussi, je l'écris vraiment. Bon, ça peut être sans fin. Bref, collection Jour J chez Delcourt. Tant qu'on en est dans les bandes dessinées, autre conseil. Alors, autant Jour J a commencé en 2010, la prochaine a vu le jour beaucoup plus tôt. 1946. Il s'agit des aventures de deux hommes, anglais. L'un est chef du MI5, les services secrets anglais. L'autre est un physicien nucléaire qui fume la pipe. Ils ont un ennemi récurrent, Ulrich. Bon, là, vous devez voir de qui il s'agit. Pour les derniers qui n'ont pas encore trouvé, si je vous donne le nom de leur créateur, Edgar P. Jacobs. Ah, ça y est, Blake et Mortimer. Ça peut paraître étrange, mais oui, je considère cette BD comme de la SF. Au vu de leur péripétie, oui, c'est de la science-fiction. On y parle de l'Atlantide avec des fusées, de machines qui modifient la météo, de voyages dans le temps, de robots à forme humaine, mais aussi de dragons. Robots à forme de dragons, qu'on s'entende bien. Pas de dragons à proprement parler. Ou alors les robots dragons ont utilisé la machine à voyager dans le temps pour créer des légendes à leur sujet. Improbable. Mais bon, les dragons, on le sait tous, ils sont un poil mégalo. Toujours au rayon BD, il y a également Universal War One de Denis Bajram. L'histoire se déroule à partir de 2098 dans le système solaire qui sera le champ de bataille entre le gouvernement uni du système et un conglomérat de multinationales. Les héros font partie d'une escadrille constituée de fortes têtes au passé lourd et chaotique. L'ambiance est sombre, parfois déprimante, mais les personnages principaux sont attachants et humains par leurs failles. Cette série de 6 tomes sera suivie par Universal War 2, logique, qui verra s'affronter une partie de l'équipe de Universal War 1 et des extraterrestres. Oui, je vous vois venir. Si les humains ne vivent pas sur Terre, ils sont de facto des extraterrestres. Merci la team premier degré. On a compris, vous pouvez disposer. Pour les pinailleurs, on va dire que ce sont des extrasystémiens. Oui, j'invente des mots. Je fais ce que je veux, c'est mon émission. En plus, le terme est clair, et puis ça claque, quoi. Pour la petite histoire, Denis Bajram a co-signé la BD Goldorak sortie fin 2021. Dans cet ouvrage, on retrouve un Japon paisible des années après le départ de Goldorak. Mais une nouvelle menace approche. Pour les téléspectateurs de ma génération, c'est drôle de retrouver cette série qui a introduit les mechas en France. Ces grands robots surpuissants qui affrontent des ennemis venus d'ailleurs. Il a ouvert la porte à Gundam, Macross, Evangelion forcément. Au cinéma, les grands robots n'ont pas eu le même succès. Il y a bien eu Pacific Rim et sa suite, disons, discutable. En film d'animation parlant de grands robots, je vous conseille Le Géant de Fer, sorti en 1999. Bon, je me suis un peu écarté du sujet, revenons à nos moutons électriques. Dans le champ de la BD française, on va trouver aussi le très bon transpersonnage de Loeb, Rochette et Legrand, publié sous la forme d'un album en 1984. Cette œuvre aborde un sujet d'actualité ces dernières années, le changement climatique, et il y a 40 ans, c'était pas du tout dans les tuyaux. Mais ça ne parle pas que de ça. C'est un huis clos par définition, logique dans un train. Mais aussi une reproduction du monde à une toute petite échelle, avec en queue de train les pauvres, les indigents. Plus on va vers l'avant, plus on monte dans la société. En 2013 est sortie son adaptation au cinéma par Bong Joon-ho. Et ce film aussi est à voir. Déjà pour le tour de force de mettre l'histoire en scène dans un train, mais aussi pour le casting tout bonnement magistral. On perçoit le changement d'ambiance au fur et à mesure de la remontée du train. Un choc des cultures en accéléré. Je vous préviens, le film n'est pas d'une joyeuseté folle. Il est violent psychologiquement et visuellement. Ceux qui l'ont vu sauront de quoi je parle si je dis « bonne année ». Pour en revenir à la BD française, ou du moins francophone, il y a Les Petits Hommes. Collection 48 albums, apparu en 1967, oui je sais, c'est pas tout neuf, dans le journal de Spirou. Vivier ô combien fertile de nombre de BD. Dans le plus pur esprit de l'école belge et proche visuellement pour les personnages de l'univers de Gaston Lagaffe. L'histoire ? Un scientifique découvre une météorite dans son jardin, en la bonne ville de Ravejoie. Le souci, c'est que la météorite a des propriétés. Toute personne qui la touche rapetisse, jusqu'à ne mesurer plus que quelques centimètres. Et c'est contagieux. Les personnes qui ont touché des personnes qui ont touché la météorite sont infectées, et ainsi de suite. Ce qui fait que tout le village a rapetissé en 24 heures. Tout ce petit monde, c'est le cas de le dire, va se cacher et fonder de nouvelles cités à leur échelle. Et cela pion. Et grâce à un savant, ils vont rapidement bénéficier d'une technologie en avance sur son temps. Le style de cette collection est positif. Ce n'est pas sombre et les péripéties ne sont pas dramatiques. C'est bon enfant. Là, c'est ça le terme. Bon enfant. Toujours dans le registre de la bande dessinée, Valérian et Laureline, par Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Paru dans le journal Pilote en 1967. Pas tout jeune non plus. Un point d'explication au cas où certains se poseraient la question. Je parle de BD dans des journaux. À partir de 1938 pour le journal du Spirou et 1958 pour Pilote, ces périodiques hebdomadaires en général vont s'adresser à un lectorat jeune. Ils proposent dans leurs pages des reportages, des interviews de célébrités, de l'actualité, avec un angle d'approche typé jeunesse. Mais aussi de la BD, qui prendra de plus en plus de place. C'est ainsi que les lecteurs vont assister à la naissance de nombreux héros dont ils découvriront les aventures feuilletonnées au fil des numéros. Dans les années 60, ces journaux feront office d'incubateurs en prise directe avec le public et qui sauront lesquels de ces histoires fonctionnent. Ce sera le cas pour les deux séries citées plus tôt qui passeront du journal aux albums. Parenthèse dans la parenthèse, Spirou et Pilote vont au fil du temps avoir des lignes éditoriales qui vont diverger. Spirou va rester sur les enfants et les ados. Pilote va migrer vers les grands adolescents et les jeunes adultes avec des publications plus sarcastiques, voire sombres. Un peu l'image de Valérien. J'y reviens. Oui, je sais, la parabole a été longue, mais nécessaire. Donc, Valérian et Laureline, sa coéquipière slash amante, sont des agents spatio-temporels au service de Galaxy City, capitale d'un empire galactique. Ils voyagent dans l'espace et le temps pour protéger les intérêts de Galaxy City. La collection présente 23 albums et un petit dernier apparu tout récemment et qui ressemble à une sorte de remise à zéro. À voir. À voir également le film réalisé par Luc Besson. Pas pour le scénario sans surprise, mais pour l'univers de la BD, qui pour moi est bien restitué à l'écran. Une jolie coquille vide. Au rayon film de SF français récent, Le Dernier Voyage, réalisé par Romain Quirot, est sorti en 2021. L'histoire, une lune rouge menace de percuter la Terre et le seul astronaute capable d'empêcher le désastre refuse d'accomplir la mission, du coup tout le monde le recherche. Le film n'a pas été super bien reçu, mais je pense qu'il lui faut lui donner une nouvelle chance. Les vacances de Noël approchent à grands pas et vous aurez du temps pour visionner des séries. Lovez sous la couette en sirotant un chocolat chaud. Comment ça c'est cliché? Dites-le moi dans le blanc du haut-parleur que c'est pas vrai. On va commencer par des classiques. X-Files. La base. Ça a presque 30 ans, ok, mais c'est bien quand même. Explication pour les deux du fond qui n'ont pas suivi ou ceux qui n'étaient pas nés à l'époque. Aux frontières du réel, en version française, raconte les histoires d'un duo du FBI, Fox Mulder et Dana Scully, qui parcourent les États-Unis pour résoudre avec plus ou moins de réussite des affaires mystérieuses. Au menu, ovnis, aliens, fantômes, mutants et une conspiration sur une présence d'extraterrestres sur Terre. Si vous voulez une série un peu plus récente, allez voir Fringe, successeur déclaré de X-Files. La thématique est la même, mais forcément plus contemporaine, avec en plus une intrigue sur un monde parallèle. Série créée entre autres par J.J. Abrams. Je reviens une seconde dans la catégorie film, ceux de J.J. sont à visionner également. Si on aime les lens flares. Alors, le lens flare, comment dire? C'est une technique classique dans le cinéma. Il s'agit de pointer une lumière vive vers l'objectif de la caméra lors du tournage, mais sans être dans le champ de la caméra. Ça donne des stries horizontales très lumineuses à l'écran pour donner un effet réaliste en faisant croire à des effets lumineux indésirés. Et si en plus c'est filmé caméra à l'épaule, on a presque l'impression d'un reportage pris dans le vif de l'action. Et J.J., il aime ça les lens flares. Bah alors, il a fait quoi J.J.? Il a tout simplement relancé la franchise Star Trek au cinéma. Rien que ça. Et bien plus. Il a réalisé aussi Super 8. L'histoire? Des gamins qui réalisent un film avec les moyens du bord sont témoins d'un accident de train qui va semer le chaos dans une petite ville américaine. Ce film est une sorte de mise en abîme. On voit la production d'un film amateur se faire tout au long du « vrai film » entre guillemets. Et il profite de chaque occasion pour des plus-values de production. Ils filment dans une gare abandonnée, un train passe, hop, ils s'en servent. Après l'accident, l'armée débarque dans la ville. Pas de problème, on tourne une scène avec des militaires en arrière-plan. Autant les jeunes sont innocents et accaparés par le tournage, autant pour les adultes, c'est pas la même soupe. Parce que l'accident, c'était pas vraiment un accident. J.J. a tourné aussi Star Wars 7 et 9. Vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai un problème avec cette trilogie. Bon, le 7, c'est une ressuscité du 4, admettons, fan service, tout ça, tout ça. Passons sur le fait que Rey se découvre des pouvoirs de Jedi en 5 minutes. Nul n'est parfait. Le 8, réalisé par Rian Johnson, crache littéralement à la gueule du 7. J.J. revient pour le 9 en essayant de tout rattraper en sortant un cadavre du placard. quasi littéralement. Bref, ça reste du grand spectacle, mais l'ensemble n'est pas vraiment cohérent. Bon, je ne suis arrivé où, moi ? Ah oui, les séries. Toujours dans la catégorie vieille série, Stargate SG-1. Extension du film réalisé par Roland Emmerich en 1994. Elle raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs militaires et civils qui explorent des mondes extraterrestres par le biais de la Porte des Étoiles. C'est un vortex qui permet de voyager quasi instantanément dans tout l'univers. La série va durer 10 ans, de 1997 à 2007, et verra les personnages principaux affronter divers dangers et situations cocasses, avec en fil rouge la lutte contre les Goa'uld, un peu à l'image des Klingons dans Star Trek. Là, vous vous dites, ils cherchent à nous paumer ou quoi ? Non, pas vraiment. Juste pour vous dire que pour faire une bonne série, il faut un bon méchant récurrent. Un méchant sur lequel on peut compter, qui va se montrer cruel et impitoyable, mais aussi incompétent et malchanceux. Bah oui, si les méchants gagnent, c'en est fini des héros et clap de fin. Donc les Klingons, ce sont des méchants et qui ne gagnent jamais. J'en reviens à Stargate, c'est une série de qualité avec un personnage principal, le colonel O'Neill, doté d'un humour piquant qui fait entre autres le charme de cette série. A noter qu'elle a eu droit à deux séries dérivées. Stargate Atlantis, qui pour moi est un ersatz de la série originelle avec une équipe qui copie, voire parodie l'équipe de SG-1. L'autre série dérivée, par contre, c'est pas la même limonade. Si on retrouve le cadre Stargate, on est à milieu de SG-1. C'est sombre, déprimant, limite angoissant. L'histoire, des Terriens échappent à une attaque de Goa'uld sur une base avancée et se retrouvent projetés par une porte des étoiles dans un vaisseau inconnu. Va leur commencer une errance au fil des différentes planètes qui leur permettront ou pas de retrouver le chemin de la Terre. Je dis ou pas, car la série a été annulée au bout de 2 saisons, faute d'audience et des finances. Et on ne saura jamais ce qu'il adviendra des personnages. L'ambiance volontairement noire de cette version de Stargate est pour moi une réponse à une série qui est apparue quelques années plus tôt et qui, elle, a parfaitement fonctionné. Battlestar Galactica, version 2004, suite de la série de 1978. Là non plus, ça va pas être la grosse marade. On suit la fuite de ce qui reste de l'humanité suite à l'attaque des Cylons, race de robots humanoïdes qui se sont retournés contre leur créateur. Bah tiens. Les humains sont à la recherche d'un hypothétique havre de paix, la Terre. Elle est imprégnée des attentats de 2001 aux États-Unis et ça se ressent tout le long des 4 saisons. Qui a dit qu'une série devait être drôle pour être bien ? Une noirceur justement dosée, un réalisme dans les rapports humains, un peu de psychologie de l'humain, quoi. Voilà comment on fait une bonne série. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de séries qui ont connu une diffusion classique, à savoir par la télévision. Il faut dire qu'à l'époque de la première diffusion, l'offre de vidéos à la demande sur Internet n'existait pas ou très peu. Voire même qu'Internet n'existait pas pour le grand public. Depuis quelques années, ont commencé à fleurir les sites de streaming. Techniquement, le streaming a permis une plus grande fluidité dans le visionnage des séries. Plus besoin de télécharger un épisode en entier avant de pouvoir le regarder. Tout ça pour dire que l'offre de séries de SF a explosé grâce à ces sites qui deviennent créateurs et pas seulement diffuseurs. Je ne vais pas pouvoir vous faire un tour complet de ce qui est disponible et je dois vous avouer que je n'ai pas tout vu. J'ai une vie à côté de cette émission. Je vais vous parler d'une série surtout, que j'ai découvert sur Amazon Prime Video. Ce n'est pas pour leur faire de la pub, ils n'en ont pas besoin, c'est juste pour que vous la retrouviez. Netflix et Disney Plus ont sûrement aussi leur pépite. La série dont je vais vous parler, c'est Tales from the Loop. La genèse de cette série est atypique. Elle a été créée à partir d'illustrations de Simon Stellenhag. Vous les avez peut-être même déjà vues. Elles sont reconnaissables au premier coup d'œil. Il s'agit de manière générale de paysages ruraux au milieu desquels trône un robot ou une structure qui semble provenir d'un autre monde. Ce sont ces illustrations qui ont donné l'idée à Nathaniel Halpern d'en faire une adaptation télévisée. En résulte 8 épisodes d'environ 1 heure qui présentent une histoire différente à chaque fois, mais qui restent dans l'univers de la série. Tales from the Loop raconte les histoires de différents protagonistes qui habitent une petite ville dans ce qui fait penser à l'Europe du Nord. Ce n'est pas spécifié, mais l'atmosphère qui y règne fait furieusement écho à l'image que j'ai de la Scandinavie. Ça ressemble beaucoup à notre réalité, mais avec des touches divergentes. Par exemple, la robotique associée à l'intelligence artificielle est très présente. L'action se situe dans les années 80, dans une petite ville qui jouxte un laboratoire dans lequel on trouve un accélérateur de particules. Et les expériences menées dans cet endroit ont eu des répercussions à l'extérieur. Des phénomènes inexpliqués se produisent ici et là. Comme je vous l'ai dit, c'est plus une question d'ambiance. Le style est plutôt contemplatif. Ce n'est pas du grand spectacle, mais un subtil mélange entre la réalité et un monde parallèle où se côtoie la plus frappante des banalités et une pointe d'exotisme science-fictionnel. Bref, un très beau moment à passer en ces froides journées qui s'annoncent. Voilà un tour succinct de ce que j'avais à vous proposer pour faire plaisir ou vous faire plaisir à Noël et plus généralement en cette fin d'année. Il y aurait tellement d'autres œuvres à découvrir, mais il me faudrait plusieurs émissions pour les présenter, et vous, plusieurs semaines de vacances pour les savourer. Le choix des créations présentées est totalement subjectif, et peut être sujet à discussion. Mais c'est encore mon émission, et je parle de ce que j'aime. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, vous donne rendez-vous en 2023 pour un nouveau numéro de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction ». Post-Scriptum, la musique que vous entendez, c'est Sing for Absolution de Muse. Allez voir le clip, il est vraiment pas mal.